La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires Alice Laplume
et Florence Olivier. Bonjour Florence.
Bonjour Alice. Ce mois-ci, le podcast de la Chambre sociale de la Cour de cassation est thématique et porte sur le préjudice nécessairement subi. Pour en parler, nous recevons Christine Capitaine, doyenne et conseillère à la Chambre sociale de la Cour de cassation. Bonjour Christine.
Bonjour Alice. Bonjour Florence.
Avec vous Christine, nous allons aborder la notion de préjudice nécessairement subi et nous pencher sur l'office du juge lorsqu'un salarié sollicite la réparation d'un préjudice par l'allocation de dommages d'intérêt. Ce n'est pas tant le concept de préjudice nécessaire qui va nous occuper aujourd'hui que son application par le juge. Car il est complexe de déterminer dans quelles hypothèses doit être admis le principe d'un tel préjudice.
En effet, Florence, nous verrons donc en détail dans ce podcast les oscillations de la Chambre sociale de la Cour de cassation à ce propos et ses décisions récentes visant à préciser les critères de reconnaissance du préjudice nécessaire. Mais avant tout, Christine, pourriez-vous nous préciser ce qu'est le préjudice nécessaire ?
Bien sûr. En principe, le droit de la responsabilité civile contractuelle et ses fonctions réparatrices sont mobilisés en droit du travail pour assurer l'effectivité de la norme édictée par le législateur et plus spécialement celle qui instaure les droits des salariés. Mais parfois, le législateur prévoit des sanctions spécifiques destinées à assurer cette effectivité. C'est le cas par exemple en matière de travail dissimulé. L'article L. 8223-1 du Code du travail accorde, lors de la rupture du contrat de travail, au salarié qui n'a pas été déclaré par son employeur, une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. On le voit dans cet exemple de reconnaissance d'un préjudice nécessaire par la loi. Des considérations punitives s'ajoutent aux fonctions réparatrices des dommages et intérêts alloués au salarié. C'est ce même mécanisme qui a été adopté par la Cour de cassation qui a reconnu, dans d'autres hypothèses de manquement de l'employeur à ses obligations, l'existence d'un préjudice nécessaire. Vous savez bien sûr que la mise en œuvre de la responsabilité civile implique la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Et vous savez également que le juge a, en principe, un pouvoir souverain pour apprécier l'existence ou l'absence de préjudice et pour l'évaluer. En matière de préjudice nécessaire, le juge apprécie l'existence d'un manquement de l'employeur et ne peut qu'évaluer le montant de la réparation du préjudice dont le principe est acquis.
On en vient donc à la difficulté que j'énonçais en préambule. Comment distinguer les cas dans lesquels le salarié doit prouver l'existence de son préjudice du cas dans lequel il en est dispensé?
C'est une question qui a particulièrement agité la Chambre sociale de la Cour de cassation. Car le droit du travail s'est avéré un terrain privilégié pour la reconnaissance du préjudice nécessaire. Nous sommes passés d'une construction prétorienne foisonnante dans les années 90 en la matière à un reflux en 2016. Cette histoire mouvementée explique la préoccupation actuelle de la Chambre sociale d'objectiver le recours à la notion du préjudice nécessaire, n'est-ce pas Christine ?
Oui, dans les premiers temps, il a été recouru à la notion de préjudice nécessaire afin d'assurer l'effectivité des règles de procédure en matière de licenciement. Nous sommes alors dans le milieu des années 90. Ayant initialement limité son application à la sanction de règles de procédure, la Chambre sociale de la Cour de cassation a ensuite admis de très nombreuses hypothèses de préjudice nécessaire, comme par exemple en cas de défaut de remise par l'employeur de documents de fin de contrat ou lorsqu'une clause de non-concurrence était jugée illicite. Mais ces exceptions au droit commun de la responsabilité civile se sont multipliées sans trouver de fondement précis.
D'où le changement de cap opéré par la Chambre sociale de la Cour de cassation en 2016.
Oui, par un arrêt du 13 avril 2016, la Chambre sociale de la Cour de cassation a marqué un retour au droit commun en retenant que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Pour autant, il ne s'agit pas d'un abandon du préjudice nécessaire, mais plutôt d'un reflux. Si les décisions qui ont suivi ont montré un rejet du préjudice nécessaire dans de nombreux domaines, dans lesquels il avait été reconnu avant la décision du printemps 2016, d'autres hypothèses ont ressurgi, par exemple en cas d'absence illégale d'institutions représentatives du personnel sans procès-verbal de carence.
En définitive, la Chambre sociale a-t-elle dégagé un mode opératoire permettant au juge de savoir quand le manquement de l'employeur ouvre nécessairement droit à réparation ?
Oui, Florence, on peut distinguer désormais deux séries d'exceptions au droit commun. La première série d'exceptions tient à l'existence d'un texte de droit interne qui prévoit un préjudice nécessaire. La deuxième série d'exceptions, dégagée au travers de plusieurs arrêts rendus notamment depuis 2022 par la Cour de cassation, s'appuie sur l'obligation faite aux juges de faire respecter les engagements européens et internationaux de la France. Christine, quel raisonnement, selon la Cour de cassation, le juge doit-il suivre pour reconnaître l'existence d'un préjudice nécessaire ?
Le juge doit en premier lieu rechercher si la règle dont la violation est alléguée relève exclusivement du droit interne ou s'il s'agit d'une règle issue du droit de l'Union européenne ou d'une convention internationale.
Et si c'est une règle de droit interne dont le manquement est allégué, que doit faire le juge ?
Dans le cas de la violation d'une règle qui relève exclusivement du droit interne, il est possible que le législateur ait prévu de sanctionner automatiquement une telle violation par l'allocation d'une indemnité. Ainsi, dans un arrêt du 13 septembre 2017, la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, que causait nécessairement un préjudice au salarié la perte injustifiée de son emploi dont il appartenait au juge d'apprécier l'étendue. On peut aussi citer l'exemple du licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour lequel l'article L. 1235-3 du Code du travail prévoit un barème octroyant une indemnité d'un montant minimal aux salariés. C'est le cas également lorsque la reconnaissance du préjudice nécessaire n'est pas explicitement prévue par le texte de droit interne, mais en résulte. Tirant les mêmes conséquences que les autres chambres de la Cour de cassation de la lecture de l'article 9 du Code civil, la Chambre sociale en déduit que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée des salariés leur cause nécessairement un préjudice.
Et si la règle de droit interne ne prévoit pas l'existence d'un préjudice nécessaire ?
En l'absence de toute sanction spécifique, c'est le régime de la responsabilité civile qui assure l'effectivité de la norme. C'est le principe régulièrement rappelé par la Cour de cassation, comme par exemple dans un arrêt du 4 septembre 2024 s'agissant d'un salarié qui demandait la réparation du préjudice consécutif au défaut de remise par l'employeur d'une fiche d'exposition à l'amiante. Il lui appartenait de justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
Nous avons examiné les situations dans lesquelles le salarié invoque la violation d'une règle qui relève exclusivement du droit interne. Mais le salarié peut aussi invoquer la violation d'un texte qui n'est pas purement interne, par exemple, un texte qui transpose une directive européenne. Dans ce cas, comment doit procéder le juge ?
Comme l'a rappelé Alice tout à l'heure, la Cour de cassation s'appuie dans ce cas sur l'obligation faite au juge de faire respecter les engagements européens et internationaux de la France. Il doit notamment assurer l'effectivité de la norme d'origine européenne et reconnaître l'existence d'un préjudice nécessaire lorsqu'une telle obligation de sanctionner existe dans le droit européen. Dans le cas le plus simple, le texte européen, interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, envisage lui-même l'existence d'un préjudice nécessaire à titre de sanction.
C'est le cas dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la Chambre sociale de la Cour de cassation en matière de dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire. En l'espèce, un salarié, chauffeur-livreur, demandait le paiement de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures prévue par le Code du travail. Cette durée maximale du travail est également prévue par l'article 6B de la directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Oui, tout à fait. Et pour dire que le seul constat du dépassement de la durée maximale du travail ouvrait droit à la réparation, la Cour de cassation s'est appuyée sur les termes de l'arrêt Fuss contre Stadthalle, rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en 2010. Selon cette Cour, le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition sans qu'il soit besoin de démontrer en outre l'existence d'un préjudice spécifique. Dans le prolongement de l'arrêt de janvier 2022, la Cour de cassation a également retenu l'existence d'un préjudice nécessaire dans des hypothèses où la règle dont la violation est alléguée est de pur droit interne, mais poursuit les mêmes objectifs que le droit européen. Elle a ainsi admis, dans une succession d'arrêts rendus depuis, une réparation automatique en cas de dépassement de la durée maximale de travail quotidien de 10 heures, en cas de dépassement de la durée maximale de travail des travailleurs de nuit et en cas de non-respect d'un temps minimum de repos entre deux services. Pour cela, la Cour de cassation a rappelé que les dispositions de droit interne participaient à l'objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d'un repos suffisant et le respect effectif des limitations de durée maximale de travail concrétisées par la directive du 4 novembre 2003.
Dans le silence de la Cour de justice de l'Union européenne, comment savoir si le seul constat d'un manquement à une norme d'origine européenne ouvre droit à réparation ?
Le juge doit alors rechercher si le texte de droit interne transpose les dispositions d'une directive ayant un effet direct, ce qui suppose que ces dispositions soient claires, précises et inconditionnelles, ou si le texte est la transposition d'une directive plus programmatique.
Dans tous les cas, je le rappelle, le juge doit s'assurer de l'effectivité de la règle d'origine européenne. Mais la nécessité de rendre effectives les dispositions d'effet direct d'une directive revêt une intensité particulière. Rappelons que la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt von Colson et Kamann de 1984, impose aux États membres de prévoir des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées en cas de violation d'une telle disposition. Le droit commun de la responsabilité civile, exigeant la démonstration d'un préjudice, ne permet pas dans tous les cas de se conformer à cette obligation de sanction des violations des dispositions d'effet direct des directives de l'Union européenne.
Pourriez-vous donner un exemple dans lequel le droit commun de la responsabilité civile ne suffit pas ?
Effectivement, la Cour de cassation a retenu dans 3 arrêts rendus le 4 septembre 2024 que cause nécessairement un préjudice au salarié le non-respect du temps de pause, le manquement de l'employeur à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ou encore le manquement de l'employeur qui a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie. Il s'agissait en effet de sanctionner des manquements de l'employeur à des obligations imposées par différents textes de droit interne qui transposaient des dispositions d'effet direct de directives.
Dans le cas où la règle de droit interne ne transpose pas des dispositions d'effet direct d'une directive, quelles sanctions peuvent être retenues par le juge comme suffisantes pour assurer l'effectivité de la norme européenne ?
Les règles de droit commun de la responsabilité civile peuvent être considérées comme suffisantes.
C'est vrai, Alice. La Cour de cassation a ainsi admis le 11 mars 2025, à la suite de la décision rendue le 20 juin 2024 par la Cour de justice de l'Union européenne, saisie d'une question préjudicielle, que les règles de droit commun de la responsabilité civile étaient suffisantes pour assurer l'effectivité de la règle relative au suivi médical du travailleur de nuit. Cette décision est venue confirmer 2 arrêts rendus le 4 septembre 2024 qui excluaient la reconnaissance d'un préjudice nécessaire dans des hypothèses similaires de suivi médical. Le salarié reprochait en effet à l'employeur, dans la première espèce, un retard dans l'organisation de la visite de reprise suite à son classement en invalidité deuxième catégorie et dans la seconde, l'absence d'organisation d'un suivi médical et d'une visite de reprise à la suite de son congé de maternité.
Mais il existe également des cas où l'effectivité des droits du salarié ne passe pas par l'allocation de dommages-intérêts, y compris en matière de durée du travail.
Oui, la Cour de cassation a également écarté l'existence d'un préjudice nécessaire dans des hypothèses où d'autres sanctions que celles résultant de l'allocation de dommages à intérêts pouvaient être invoquées par le salarié. Ainsi, dans deux arrêts rendus le 11 mars dernier, elle a relevé que l'invalidité comme la nullité d'une convention de forfait en jour pouvait donner lieu à une demande en paiement des heures supplémentaires effectuées par le salarié. Dans un arrêt du même jour, la Cour de cassation a également jugé qu'il n'était pas nécessaire de recourir automatiquement à l'allocation de dommages à intérêts en cas de violation par l'employeur de son obligation de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. En effet, dans ce cas, les droits à congé payés du salarié ne sont pas perdus, mais reportés sur la période de reprise suivante ou indemnisés en cas de rupture du contrat de travail.
Et rien n'interdit aux salariés victimes de tels manquements de solliciter, en plus du paiement des heures supplémentaires dans le premier cas, ou du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés par exemple dans le second, des dommages-intérêts en rapportant la preuve de l'existence de son préjudice.
C'est la fin de notre podcast. Vous trouverez les références des arrêts cités dans ce podcast thématique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci Christine, merci Alice.
Merci à vous deux.
À bientôt.